Vous écoutez RTL.
7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez donc le président du Sénat, Gérard Larcher.
Bonjour Gérard Larcher.
Bonjour.
Vous avez été ministre du Travail à des moments heureux où le chômage reculait, mais aujourd'hui, au-delà de l'affrontement gauche-droite, est-ce que raisonnablement on peut penser à une vraie diminution du chômage sans recourir aux emplois précaires comme c'est le cas en Grande-Bretagne et même en Allemagne ?
Je crois que le sujet, c'est un gouvernement qui se réjouit de moins 1900. Le sujet central, c'est la croissance. Il n'y aura pas de diminution du chômage sans reprise de la croissance. C'est la clé, c'est la compétitivité de nos entreprises, c'est la formation et c'est l'adaptation de notre droit du travail. Même Robert Badinter s'est rendu compte de cette réalité il n'y a pas si longtemps.
Certes, mais François Langlais le disait il y a un instant, ce qui progresse en France, c'est l'emploi intérimaire. En Grande-Bretagne, ce sont les emplois précaires. En Allemagne, ils viennent au secours de l'emploi.
L'emploi intérimaire est ou était un signal plutôt positif. Nous n'en sommes plus tout à fait certains, parce que la question est de savoir comment on contourne un système de droit du travail qui est devenu tellement rigide que la peur d'embaucher l'emporte sur la nécessité de l'embauche.
Il y a la peur de l'insécurité chez les salariés.
Le CDI
recule.
Voilà pourquoi il faut entrer dans une nouvelle vision des relations du travail, dans une nouvelle vision du coût du travail. La flex sécurité, on en parle. J'ai fait un rapport, vous vous rendez compte, sur ce sujet à la fin de la mission de ministre qui a été la mienne. Au plan européen, tout ça est resté dans les cartons. On a peur de vraies réformes. On se contente d'un tout petit texte. La loi sur le dialogue social de François Rebsamen, c'est pas ça qui changera les choses, pas plus que les éléments qui ont été introduits dans la loi dite Macron.
Alors, parmi les leaders des Républicains, vous avez déjà choisi votre candidat pour la présidentielle, c'est François Fillon. Pourquoi lui plutôt ? Qu'est-ce qu'il y a de plus que Juppé ou Sarkozy ?
D'abord, je suis fidèle. J'ai 20 ans de parcours autour de Philippe Seguin avec François Fillon. J'ai une proximité, même si je suis pas d'accord sur tous les points. Notamment, je pense qu'il va falloir faire un peu la pause en réforme de collectivité territoriale. Ils ont besoin de souffler, les élus. Et c'est d'ailleurs un facteur aujourd'hui d'instabilité. Mais j'ai aussi deux responsabilités. Je suis le président du Sénat, une institution de la République. Et je suis devenu en quelque sorte un des sages de la commission d'organisation des primaires, ce qui va m'amener à la fois être exigeant dans l'organisation des primaires, en faire une chance, pas simplement pour notre formation politique, mais pour la droite et le centre.
D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de plus que les deux autres ?
Je pense qu'il a un projet, tout le monde le sait, abouti, construit, concret. En même temps, maintenant, il va falloir qu'il persuade une majorité d'électeurs du centre et de la droite de s'engager derrière lui.
Il a dit hier s'il était élu, il lancerait de grandes réformes dans les 100 premiers jours de sa présidence, une méthode un peu à la Hussarde. Et Alain Juppé, qui avait expérimenté cette méthode à son détriment en 1995, dit maintenant, moi j'ai compris qu'il ne fallait pas vouloir en faire trop.
Il ne faut pas vouloir en faire trop, mais il faut en faire. Et chacun sait qu'on a un semestre pour faire bouger les choses dans ce pays avec la légitimité si particulière que donne l'élection présidentielle. Voilà pourquoi je pense que, peu importe si le terme 100 jours qui est connoté dans l'histoire, parfois comme quelque chose de dramatique ou quelque chose d'exceptionnel, en tous les cas, je crois qu'il faudra proposer au pays de véritables réformes en matière notamment d'organisation du travail. Le vrai sujet, il y en a trois aujourd'hui, chômage. La question migratoire, elle est au cœur des défis de l'Europe et des questionnements de notre société, et tout simplement retrouver une cohésion dans un pays qui se fragmente. Dans le rapport que j'ai remis au président de la République sur la nation au mois d'avril dernier, je suis frappé par les replis communautaires.
Mais justement, est-ce que vous êtes choqué alors de voir que l'Église de France est peut-être en train de changer d'avis sur le Front National, puisqu'il y a un diocèse dans le Var qui va recevoir Marion Maréchal Le Pen pour une discussion ?
Écoutez, je pense que c'est une avancée dans la banalisation du Front National. Et puisqu'on parle d'Église, en tous les cas, pour le diocèse de Toulon, Fréjus, la dédiabolisation semble être en marche. L'Église est libre, mais son geste est politique. Et l'évêque lui-même dit, c'est un parti comme les autres, Et le discours du Front National, la question est-il compatible avec les valeurs universelles évangéliques? C'est un sujet que je livre aux évêques, mais à l'ensemble des chrétiens.
L'Église dit, nous avons des catholiques qui votent Front National, on ne peut pas les ignorer, il vaut mieux parler avec eux que les laisser de côté.
Je ne suis pas là pour juger l'Église, mais en tant qu'attaché à la laïcité, mais aussi chrétien d'une autre Église, certes, je me dis, tout simplement, en tant que chrétien, est-ce que c'est compatible avec les valeurs évangéliques?
Vous êtes très attaché à la ruralité. Si vous viviez dans un bourg dans lequel il n'y a plus rien, pas de commerce, pas de cinéma, pas de service public, il faut prendre la voiture pour toutes les activités possibles et imaginables, est-ce que vous auriez le choix entre finalement voter Front National pour protester ou bien aller grossir le flot des chômeurs dans les villes ?
Si j'étais l'habitant d'un bourg, mais j'ai été longtemps l'habitant d'un bourg rural, mon père était maire d'un de ces bourgs en Basse-Normandie, donc je le connais bien, tout simplement j'essaierais de prendre mon destin en main et en même temps de vitaliser. Moi ce qui me frappe beaucoup...
Mais vous seriez abandonné ?
Non, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous, politiques, pendant trop longtemps, nous avons eu un regard uniquement orienté sur la question des grandes organisations, les régions puissantes, les métropoles puissantes. Et c'est le géographe Guilly qui dit il y a une France périphérique. Oui, il y a une France que j'ai qualifiée d'à côté, qui a le sentiment d'être oubliée, d'être méprisée. Alors... Et c'est cette France aussi que j'ai rencontrée il y a moins de 10 jours dans le Finistère ou dans les Côtes d'Armor. Et pourtant, on est dans un territoire qui marchait économiquement très bien, qui est en train de se dévitaliser avec la dévitalisation de l'agriculture française, première en Europe il y a 10 ans, et qui est en train de passer au
quatrième. Puisque François Fillon dit « il ne faut pas masquer la vérité », est-ce qu'on ne trompe pas les agriculteurs en leur disant « mais quand même, la politique agricole commune, les prix garantis, les quotas laitiers, tout ça, c'est vraiment fini, c'est terminé, et il faut vous organiser autrement. »
Mais c'est le vrai langage qu'il faut tenir, le langage de la compétitivité, mais il faut leur donner les moyens de cette compétitivité. Or, nous avons des coûts, et notamment des coûts du travail, c'est la même chose que dans l'industrie. L'agriculture a besoin de compétitivité. Il y a conjoncturellement l'embargo russe qui pèse sur quelques pourcents, et chacun sait que quelques pourcents dans une économie, ça vous fait basculer dans la crise. Mais la question centrale, elle est compétitivité, elle est normes, et elle est aussi un pays qui ne soutient plus son agriculture et sa filière agroalimentaire. Pendant très longtemps, tous les cas, depuis un certain nombre de mois, nous entendons, et parfois nous sourions quand on pense que ce seraient les vaches qui serait responsable du déséquilibre et du dérèglement climatique. Parfois, je souris, bien sûr, il y a des phénomènes de méthanisation, mais je crois qu'il faut refaire confiance dans cette chance qu'a la France d'avoir un territoire, et ce territoire, l'espace rural, en fait ô combien partie.
Merci Gérard Larcher.
Merci de m'avoir invité.
On a un semestre pour faire bouger les choses dans ce pays, vient de nous dire Gérard Larcher, pardonnez-moi.
Ah oui,
mais qui vote François Fillon. Restez assis, juste une petite question, un commentaire politique, c'est l'info quand même politique de la matinée. François de Rugy qui quitte son parti, Les Verts, Europe Écologie Les Verts. Qu'avez-vous à nous dire ?
Que ça va très mal chez Europe Écologie Les Verts, que je vois au Sénat un certain nombre d'écologistes qui participent et qui travaillent avec nous d'une manière construite et positive, et que tous ceux qui privilégient l'idéologie, le populisme, une alliance hors des réalités, il n'est pas illogique que certains gardent quand même le sens des réalités.
Donc j'ai compris que vous compreniez sa démarche.
Merci. Absolument.
Merci Gérard Larcher. Cette interview est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.